France Inter. Le masque et la plume. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'actualité littéraire avec au programme Hystérie collective de l'américaine Lionel Shriver qui imagine des États-Unis où certains mots sont interdits, Désertion de François Bégaudeau qui suit le parcours de deux jeunes Français partis combattre en Syrie, Hors champ de Marie-Hélène Lafont qui poursuit son œuvre sur le monde rural à travers le portrait d'un frère et d'une sœur, Princesse, roman farcesque de Kinga Wierzykowska avec un lapin d'1,60 m parmi les personnages et Une pension en Italie où Philippe Besson enquête sur un secret familial. Et comme d'habitude, je vous présente les critiques installées sur la scène du théâtre de l'Alliance française pour notre épisode du jour. Philippe Trétiac, auteur, Raphaël Léris du journal Le Monde, Nicolas Destiendorf, auteur, et Arnaud Vivian de la revue en ligne Regard. Bonjour, bienvenue, voici Le Masque et ses plumes. Les engueulades, merveilleux. La mauvaise foi pour le plaisir du jeu, du petit lait. Mais là, non, m'écrit Zora sur Instagram. Cette auditrice explique... À l'écoute de la critique d'Aqua, nouveau roman de Gaspard Koenig, j'ai entendu prononcer l'adjectif néo-péténiste pour qualifier ce livre que j'ai lu et aimé. On n'est pas d'accord ? Pas grave, c'est même fécond. En revanche, manier le mot péténisme avec légèreté et pour le plaisir du bon mot m'a écorché l'oreille. Le péténisme recouvre une réalité historique précise qui ne tolère aucune banalisation. Je plus sois. Peut-être faut-il y être particulièrement vigilant par les temps qui courent, conclut cette auditrice dont le courrier m'a semblé représentatif de tous ceux que j'ai reçus. Comme Laurent Chalumeau n'est pas présent à la tribune aujourd'hui, je vous lis la réponse qu'il vous adresse. Les auditeurs ont raison, c'était une erreur. Le péténisme est effectivement une chose trop horrible pour qu'on l'amalgame inconsidérément à tout et n'importe quoi, même à des projets romanesques que j'estime lestés d'un agenda idéologique moins innocent qu'il n'y paraît. Les autres critiques qui vous ont fait réagir cette semaine concernent « Je suis Romane Monnier », nouveau roman de Delphine de Vigan. « L'hiver a-t-il frigorifié vos sensibilités ?» demande Caroline Bonacossa de Paris 5e. Cette auditrice déplore que les critiques n'aient pas été suffisamment touchées, je cite, « par l'humanité et la solitude des personnages de ce roman qui décrit la tyrannie des smartphones dans nos vies ». Mon épluche légume a-t-il crissé trop fort ? Demande Rosemary Vassallo de Trégastel. Je ne vous ai pas entendu prononcer le nom du traducteur de Julian Barnes. Alors, l'épluche légume n'est pas en cause, puisque c'est un oubli de ma part. Jean-Pierre Austin a traduit Départ, roman ultime du britannique Julian Barnes. Et Michel Van Oostwijs est le traducteur de Mon mère géant d'Alfred de Blin, dont Patricia Martin avait fait son coup de cœur. En tout cas, citer ces deux traducteurs à l'ère de l'intelligence artificielle a effectivement un sens. On commence dans le Cantal, parce que région d'origine de l'autrice Marie-Hélène Lafont et décor récurrent de son œuvre où le monde paysan occupe une place centrale. En cette rentrée littéraire hivernale, Marie-Hélène Lafont publie Hors champ, qui est le récit d'un enfermement. L'enfermement de Gilles, fils d'une famille de paysans contraint de reprendre l'exploitation familiale, tandis que sa sœur Claire peut s'échapper pour des études à Paris, où elle devient écrivain. Le roman couvre 50 ans de leur vie familiale. On passe de son point de vue à elle, Claire, qui n'est que de passage à la ferme, à son point de vue à lui, rivé aux travaux de la ferme, entre un père violent et une mère qui le rabaisse. C'est l'histoire d'un frère qui ne choisit rien et d'une sœur qui tente de l'aider. Philippe.
J'ai énormément aimé ce livre pour des tas de raisons. D'abord parce que elle montre combien les êtres, dès leur naissance, sont assignés à leur place. Et elle le fait d'une façon très subtile, puisqu'en fait, elle ne leur donne pas de prénom, sauf un personnage, Claire, la fille qui va réussir peut-être à se sortir de ce milieu. Mais les autres sont désignés comme la mère, le père, le frère. Et ça, je trouve que c'est très fort parce que c'est presque lacanien. Il y a quelque chose de... On touche au mythe général. Et je trouve que même, à un moment, il y a une scène très bouleversante, je trouve, où on voit la fille qui repasse les vêtements de sa mère et elle les range dans les tiroirs, les caleçons ici, les chaussettes là. Et on voit que les êtres sont pareils. Les êtres sont, dès leur naissance, rangés dans des tiroirs. Et je trouve que c'est très, très fort. Et puis, il y a une autre chose que je trouve très belle, c'est que, justement, en contrepoint de l'absence de nom donné aux êtres, la nature, elle, il y a une magie de la toponymie géographique. Je trouve que les villages, les noms, les vallées, tout est magnifique. Et je trouve que ce qui est encore plus beau, c'est que sur cette terre qui est tellement difficile, les êtres seront stériles. C'est une famille qui apparemment n'aura pas d'enfants. Mais la terre, elle, elle est en permanence, elle foisonne, elle continue de produire des fleurs, des arbres, etc. Et donc, je trouve qu'il y a plein de niveaux, je trouve, dans ce livre. Mis à part, en plus, je trouve une écriture très belle parce que elle décrit vraiment la poussière froide d'un confessionnal, enfin il y a des tas de choses comme ça. Non, c'est un livre, il paraît, moi je connais pas Marie-Hélène Lafont, mais il paraît que c'est quelqu'un que les gens apprécient beaucoup. Je veux bien croire que le livre m'a paru aussi bon qu'elle doit l'être. Voilà.
Est-ce que tu as apprécié ce livre, Nicolas ?
Ça t'amuse de me faire enchaîner, hein ? Je suis désolé, j'ai trouvé que c'était à périr d'ennui. Voilà. Ça avait totalement tombé des mains. Justement, alors, ma mère, qui est une bonne lectrice, m'a dit « Oh, tu lis Marie-Hélène Lafont, tu vas voir, c'est formidable. » Et je pense qu'on ne parlait pas du même livre. Effectivement, tu parlais de la menthe froissée, des libellules. Alors, elle nous cite tout ça, mais moi, je n'ai pas senti le cul des vaches, je n'ai pas senti la campagne. Je trouvais que cette écriture écrase absolument tout. C'est magnifique quand c'est écrit, mais surécrit, et ça ne sent pas la campagne, ça ne sent pas la forêt, ça sent le papier et l'encre. C'est-à-dire que je trouve ça très, 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 très glacé. Alors, c'est une écriture élégante, mais ça devient, à mon sens, tellement artificiel. Je pense, va donner ce livre à un paysan de Saint-Flour. Il lit 15 pages, ça lui tombe des mains, et après, il retourne sur Netflix regarder une série, et je ne peux pas lui jeter la pierre.
Raphaël ?
Alors, je pense qu'il y a des paysans de Saint-Flour dans les lecteurs de Marie-Hélène Lafont, et ça, c'est vraiment un livre très typique de ce qu'écrit Marie-Hélène Lafont. Enfin,
c'était mon premier Marie-Hélène Lafont, j'avoue, moi, j'ai un dépucelage à chaque fois.
qui aurait très bien pu avoir le titre du roman de Marie-Hélène Lafont qui a eu le Renaudot en 2020, Histoire du fils, puisque c'est vraiment cette situation de fils qui détermine son malheur, sa trajectoire, tout ce qu'il est. Moi, cette écriture, elle me touche beaucoup dans tout ce qu'elle retient, tout ce qu'elle montre et tout ce qu'elle ne montre pas, et cette capacité au silence, je la trouve vraiment magnifique. Les gestes que fait Claire sont très beaux. On n'a pas encore parlé d'une des choses, je trouve, les plus réussies du livre, qui est cette capacité de faire traverser 50 ans en une centaine de pages. Il y a un rapport au temps qui est extraordinaire. On a vraiment passé une ligne, on a passé 10 ans, et la manière dont elle indique que le temps a passé est toujours très subtil. Je pense qu'on reparlera de la question du temps avec...
Oui, vous n'avez pas le même rapport au temps, tous les deux, Nicolas et toi, en tout cas.
Chacun son temps. On prend notre temps.
Chacun son temps. Les paysages de la vallée de la Saintoire, je les trouve magnifiquement décrits. Ça me touche beaucoup.
Arnaud, on ne t'a pas encore entendu ?
Alors, ce n'est pas mon premier livre de Marie-Hélène Lafont, j'en ai déjà lu, j'ai toujours dit tout le grand bien que j'en pensais, et je vais continuer donc. Il y a chez Marie-Hélène Lafont, non seulement, disons, un territoire qui est plus que géographique, qui est mental aussi, qui est la ruralité, qui est l'agriculture aussi, qu'elle reconduit ici, toujours avec la même idée littéraire. C'est une économie de moyens qui frise la pingrerie. Mais c'est bien la pingrerie en art. C'est assez beau, et même le titre, hein, tout simplement deux mots, hors champ. Et soudainement, tout est dit, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est-à-dire qu'il y a un frère et une sœur. La sœur, eh bien, elle va profiter du fait qu'elle est une femme et s'émanciper, aller à Paris, devenir écrivain. Évidemment, on reconnaît Marie-Hélène Lafont, et envoyer ses livres à sa mère, qui les lit d'ailleurs, qui les collectionne. Et puis il y a le frère, et le frère, lui, on lui dit « tu vas hériter de la ferme ». Et s'il proteste, on lui dit « la ferme ». Voilà. Et là, tout de suite, le drame, on peut dire qu'il est planté. Ouais. Contrairement à ce que tu dis, Nicolas, moi qui ne vis pas, qui ai vraiment un rapport très, très lointain avec les vaches, la campagne, tout ce truc-là, il y a une scène, par exemple, dans ce livre, que je n'oublierai, je pense, jamais. Il tue un veau, et en fait, Marie-Hélène Lafont nous apprend qu'on met la peau du veau mort sur le front d'un veau vivant pour que la mère s'imagine que son petit, qui a été donc abattu, soit encore vivant dans son esprit. Moi, rien que cette image-là, j'imaginais même pas qu'on puisse faire des choses comme ça.
Mais tu racontes ça beaucoup mieux qu'elle, en fait.
Non, parce que justement, dans son économie moyen, ça fait deux lignes dans son récit. C'est ça qui est vraiment.
Et moi, peut-être que j'avais pas.
C'est vraiment magnifique. Et en fait, aussi, ce qu'elle raconte, parce que là, Raphaël, tu as tout à fait raison, c'est qu'elle raconte plusieurs décennies d'agriculture et comment ça se transforme. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne peuvent plus fabriquer leur fromage. Ils sont de plus en plus séparés, comme on dit.
À cause du contrôle du lait.
Oui, ils sont séparés de leur production, en fait. Ils ne font plus, à la fin, que vendre le lait à une coopérative, etc. Et donc, elle raconte cette transformation, parce que ce livre, il fait 160 pages. Encore une fois, non seulement avec une économie, mais une pingrerie, je maintiens le mot, de moyens qui est magnifique. Je pense que Marie-Hélène Lafont est la plus petite des grandes écrivaines et la plus grande des petites écrivaines.
Hors champ de Marie-Hélène Lafont est publié aux éditions Buchet-Chastel. On va parler maintenant d'un roman qui commence par le bannissement de plusieurs mots, comme stupide, crétin ou encore idiot, et l'usage de ces mots est interdit dans un pays, les États-Unis, tel que l'imagine l'autrice américaine Lionel Shriver. Pour rappel, Lionel Shriver s'est fait connaître il y a 20 ans avec We Need to Talk About Kevin, il faut qu'on parle de Kevin, adapté au cinéma en 2011. Et dans ce nouveau roman de Lionel Shriver, qui s'intitule Hystérie collective, les États-Unis sont sous la coupe de ce qu'elle appelle la parité mentale. Alors en voici le principe, c'est un égalitarisme intellectuel absurde qui conduit les incompétents à des postes de responsabilité, l'élection de Joe Biden et de Donald Trump en étant les symptômes, et quiconque conteste la parité, l'égalité mentale absolue, est non seulement accusé de discrimination cognitive, mais aussi assuré d'une mort sociale. C'est ce qui arrive à Pearson, une prof d'anglais, qui entre en résistance contre cette fameuse parité mentale, tandis que sa meilleure amie journaliste s'y plie par pur opportunisme. Mais les temps changeront. Après l'égalitarisme intellectuel, viendra la dictature du QI. Qu'avez-vous pensé de cette satire de l'Amérique, voire de l'Occident contemporain, Raphaël ?
Dans les choses que je ne pardonnerai pas à l'époque, il y a le fait d'avoir transformé Lionel Shriver, qui était vraiment une de mes écrivaines favorites, d'avoir pris cette très grande romancière extrêmement subtile et d'en avoir fait une autrice de tribune talentueuse. Pendant très longtemps, voilà, il y avait d'une part ses romans, d'autre part ses tribunes dans lesquelles elle ferraillait contre ce qu'on appellera, faute de mieux, le wokisme, de plus en plus avec le temps. Mais on ne pouvait pas forcément rabattre l'un sur l'autre, et c'est ce qui faisait la grandeur, à mes yeux, enfin l'une des grandeurs de Lionel Shriver, qui est un génie du dialogue, un œil laser, enfin vraiment quelqu'un d'admirable. Et là, en particulier, c'est une satire du wokisme, donc de la cancel culture. Il s'agit de préserver la sensibilité des neuneux, dit Pearson Converse, qui est assez marrante, il faut bien le dire. Mais je trouve qu'à force de vouloir expliquer à quel point son personnage de Pearson a raison, et on perçoit à quel point Pearson Converse, c'est absolument le porte-parole sans distance de Lionel Shriver, ben je trouve qu'elle perd un petit peu de vue qu'elle devrait écrire un roman, qu'il y a des choses un petit peu à arranger pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, alors, il y a des passages hilarants, hein, si on a un petit peu de mauvais esprit. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, peut-être, c'est la manière dont elle dépeint le personnage de d'Emory, la meilleure amie de Pearson.
La journaliste opportuniste.
L'opportunisme. Comment on
adhère
passe
à la parité mentale.
Voilà, après s'être gossé avec sa copine pendant des années. Ça, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants. Sinon, d'un point de vue narratif, je trouve qu'elle est un peu paresseuse.
Ouais, que c'est devenu une sorte de roman tract, d'une certaine façon. Nicolas ?
Alors moi, j'ai trouvé ça très goulayant, très gourmand. Je me suis énormément amusé. Ce que tu dis sur la structure romanesque, c'est vrai que c'est entre la tribune et le roman, mais ça fait du bien de lire ça. C'est une espèce de servante écarlate à l'époque du wokisme. Ça aurait pu s'appeler la conjuration des imbéciles si ça s'était pas déjà pris. Et ce qui est un truc intéressant, c'est que c'est une uchronie dystopique. C'est-à-dire que ça imagine une sorte d'avenir très noir, mais ça
commence... Non, c'est pas l'avenir, c'est en 2011.
Mais une chronie, justement, c'est ce qui serait passé si... En fait, elle met en place une espèce de réalité parallèle, et parfois on est à se demander si on n'est pas à deux doigts de ça, et moi j'ai trouvé ça vraiment très très excitant, et voilà, et ce mauvais esprit, moi ça m'amuse. Alors effectivement, du point de vue purement romanesque et littéraire, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Je n'avais une fois de plus pas lu les autres livres de Mme Shriver, mais
moi j'arrive les mains dans les poches. Kevin, vraiment, oui, là sais, non, mais partant, j'ai vu le film. Kevin, là,
mais et il faut saluer, je sais pas qui est la traductrice, mais parce qu'il y a Catherine énormément Schubert de jeux sur le langage, et en fait elle a fait un remarquable travail.
Arnaud.
Moi, j'avais déjà lu un livre de Lionel Shriver.
Ah non, mais moi j'arrive. Hein, moi, je sors du berceau.
Et donc, je suis, habitué à ce que j'appellerais les dispositifs pervers de Lionel Shrivel, qui ne sont pas sans rappeler, à mon sens, les romans qu'écrivait Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement, dans les années 90, et notamment un roman, L'épuisant désir de ces choses. Alors, je vais y venir à Renaud Camus, parce qu'on ne balance pas ça à la légère. Hein. Moi, je vais vous dire, ce roman, je le trouve fasciste. Pourquoi fasciste ? Parce que c'est un roman qui vous oblige à penser mal, en fait. C'est ça, le dispositif pervers.
Ça veut dire quoi, penser mal ?
De Lionel Shrivel. Ben, par exemple, on nous explique, Nicolas vient de nous dire, et je l'ai lu, alors il n'est pas le seul, hein, j'ai lu un article dans le Canard enchaîné sur ce livre, qui disait la même chose. C'est une dystopie, d'accord ? Mais, en fait, est-ce que c'est une dystopie ? Si moi, là, je dis comme ce qui est postulé dans le roman de Lionel Shrivel, c'est qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est imbécile, qu'il est stupide. Si moi, je dis que Nicolas, un exemple, hein, excuse-moi,
vas-y.
Est le plus stupide des chroniqueurs, des critiques littéraires qu'on ait jamais vu.
Mais c'est une légion d'honneur.
Mais comment il peut oser affirmer ça ? Pour qui se prend-il, etc. Vous voyez bien que c'est impossible. On a le droit de le penser, on n'a pas le droit de le dire publiquement. C'est ça. Et donc, c'est absolument pas une dystopie, ce qu'elle raconte. C'est comme ça que nous avons décidé de vivre collectivement. Alors, on appelle ça le politiquement correct. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'être politiquement correct et d'arrêter de dire que les gens sont des imbéciles ou des idiots ? Ben, évidemment que nous le faisons, en réalité. C'est pour ça que je vous explique que ça nous oblige à mal penser. En fait, ce livre, qui est par ailleurs que moi j'ai lu, alors je veux dire, avec beaucoup de plaisir, le plaisir qu'on prend quand on lit un livre fasciste en se disant « c'est un livre fasciste ». Voilà. Un critique, c'est aussi un journaliste. J'ai fait une petite recherche sur Lionel Shrivel. Vous savez qui elle a défendu à la présidentielle de 2024 ?
Tu vas nous dire.
Elle a défendu le gouverneur de la Californie, Ron DeSantis. Il était républicain à la droite de Donald Trump. Elle l'a soutenu à l'élection présidentielle américaine, Lionel Shrivel. Il faut savoir de quel côté de la barricade elle parle. Voilà. Moi, je parle de l'autre côté.
Oui, alors moi je dirais simplement que je pense qu'il... Non, ne applaudissez pas, parce que je pense qu'il faut lire le livre pour comprendre qu'à mon sens, Arnaud... Non, j'écoute, mais je pense que tu te trompes. Je pense que justement, ce livre, il a une vertu, c'est de dénoncer toutes les addictions idéologiques et de rappeler une chose qui est très importante, c'est une phrase de Scott Fitzgerald, « Le propre des gens intelligents... » Hein, c'est de vivre avec des contradictions. Et ce livre, il a aussi des contradictions. Il n'est pas à ce point... Quand tu dis que c'est un livre fasciste, c'est, à mon sens, c'est délirant de dire une chose pareille. Au contraire, c'est un livre, d'ailleurs... D'abord, je trouve que c'est un livre qui est très drôle, qui est très amusant à lire, qui est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une progression...
J'ai pas dit le contraire, hein.
Non. Il y a une autre chose qui est très intéressante dans le livre. Elle place des événements dramatiques qui pourraient arriver à l'Europe à la suite de la guerre en Ukraine. Elle les place déjà en 2014 ou 2015. Il y a quelque chose de très intrigant dans le livre, dans sa construction. Mais par ailleurs, je trouve que ça fait un bien fou que quelqu'un ose justement s'affronter à des choses. Parce que tout ce qu'elle dénonce, elle dénonce un système qui se pratique au nom des bons sentiments. C'est parce qu'il ne faut pas blesser les imbéciles qu'il ne faut surtout pas que les gens soient intelligents. Il y a une chose que j'ai trouvée très drôle dans le livre, il y a une affiche où il y a marqué « Si vous êtes contre les cerveaux, klaxonnez » et quand elle rentre chez elle, il y a un raffut terrible parce que tout le monde klaxonne, parce que tout le monde est contre les cerveaux. C'est plein d'idées, c'est très drôle et je pense pas du tout que ce soit un livre fasciste, au contraire.
Et elle renvoie tout, elle met les choses dos à dos à la fin.
Ouais.
Donc on a le droit d'être inégaux. C'est quand même, c'est ça.
C'est bien, c'est bien, mais tant mieux.
Personnellement, moi, je vis dans une civilisation qui prône l'égalité entre les races, entre les sexes, etc.
Mais le livre aussi,
lui dire, on a le droit de dire que quelqu'un est idiot et que d'autres est plus intelligent. Eh bien, écoutez, c'est le début du fascisme.
Non, la question, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on n'a pas le droit.
Tu dis qu'un livre est de meilleure qualité qu'un autre, Arnaud. Là, par ailleurs, on va quand même assez loin dans la mauvaise foi.
On a l'impression que tu parles d'un livre de Gobineau, là, carrément.
Oui, non, c'est
un peu ça.
Mais enfin bon.
Là, franchement, tu tires vraiment. Vraiment la corde.
Lisez-le. Oui.
Hystérie collective.
Ah, lisez-le. Oui, je suis d'accord.
Hystérie collective.
Lisez-le, ça vaut
toujours lire. Hein,
Hystérie collective de Lionel Shriver, apparu chez Belfond dans une traduction de Catherine Gibert. On enchaîne avec Une pension en Italie, nouveau livre de Philippe Besson qui mène ici une enquête parfois romancée sur plusieurs secrets de famille. Nous sommes donc dans l'Italie du début des années 60. Paul et Gabi, les grands-parents de l'auteur, partent en vacances dans une pension toscane avec leurs deux filles. Selon la version officielle, Paul abandonne épouse et enfant pour une jeune femme de chambre au cours de cet été 64. En réalité, Paul vit un amour avec Sandro, le cuisinier de la pension où il séjourne. Philippe Besson retrace et imagine ces quelques jours de vacances italiennes à une époque où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale et entraînait un bannissement familial, l'auteur écrit, je cite, « voir l'histoire dont il est héritier ». Nicolas ?
Alors, j'attaque. Non, j'attaque pas. En fait, si je puis dire, à la suite, j'étais déçu en bien. J'avais jamais lu de Philippe Besson, une fois de plus. Oh. Bah, écoutez, c'est le leitmotiv.
Disons, heureusement voilà. Que tu viens au Masquer la Plume pour lire quelques livres.
Et effectivement, on sent.
Merci pour les mails reçus.
Les incompétents
Nicolas.
Sont là. Hein.
Mais je suis là, je défends ma croûte.
Tu auras bientôt pu le dire.
On se croirait dans un livre de Lionel Scriver.
Effectivement, le début, j'ai eu très peur parce qu'on a l'impression d'une espèce de carte postale italienne, une suite de chromos. Ça commence un peu comme c'est le croisement de Brokeback Mountain et des vacances de Monsieur Hulot, un peu ce livre, au début. Et voilà, c'est vraiment une carte postale de l'Italie. On dirait l'impression que c'est une pub pour de l'huile d'olive. Il manque pas un petit cyprès sur les collines. La Toscane est parfaite. On dirait vraiment que c'est une carte postale. Et petit à petit, quand l'intrigue se resserre autour des personnages et autour de l'intrigue principale, et ben finalement, j'ai été assez touché. Et alors qu'au départ, ça commençait comme un téléfilm, et petit à petit, je me suis laissé prendre. Alors, on sent qu'il a beaucoup vu les films de James Ivory ou qu'il a trop regardé.
Qui cite
cet épouvantable navet qui s'appelle Call Me By Your Name, qui est un film que je déteste. Mais eh ben, petit à petit, lorsque ça se resserre et lorsqu'on arrive vraiment à cette ambiance un peu, le côté un peu mort à Venise, eh ben, j'ai été touché et j'ai trouvé qu'il y avait une forme de tendresse. Et en fait, il sait faire. C'est un livre peut-être de professionnel de littérature, de technicien du roman, qui sait faire, qui produit tous les ans son roman une fois par an. Et je trouve que c'est plutôt respectable et plutôt bien fait. Voilà.
Philippe ?
Oui, c'est ça. Respectable, oui, je suis d'accord. D'autant plus que, si Philippe Besson veut nous rappeler, et il a raison, qu'il fut une époque pas si lointaine où l'homosexualité était condamnée par les tribunaux, c'est toujours bien de le rappeler parce que, comme dit mon camarade, le fascisme peut en venir à tout moment, et pas seulement dans les livres. Donc c'est pas mal. Mais je trouve quand même que, finalement, l'intrigue est vraiment mince. On a quand même une espèce de drame bourgeois. Et il se trouve que le père de famille tombe amoureux d'un homme, mais il serait tombé amoureux d'une femme, ou la femme serait tombée amoureuse d'un homme, ça aurait été un peu pareil, quoi, finalement. Je trouve que l'intrigue est vraiment, vraiment, vraiment mince. Et
Si ça avait été pareil, il n'y aurait pas de livre.
Oui, peut-être, mais ça aurait peut-être... Enfin bon, je ne sais pas. Mais c'est un livre de plage, je trouve, moi. Je trouve que c'est un livre assez plan-plan. J'ai même envie de dire plan-plan cucu, parce que c'est un peu l'idée du livre, non ? Mais c'est pas mal, mais c'est quand même pas...
Arnaud ?
Je suis tellement distrait que
d'une pension
le
en Italie
livre de Patrick Besson qui s'appelle Le jour où je suis tombé amoureux, qui pourrait être d'ailleurs le titre bien mieux qu'une pension en Italie, là, qui est quand même plan-plan, comme tu dis. Il y a deux phrases quand même que j'ai retenues de ce livre. La première, qui m'a quand même fait rire pendant un bon moment, j'avoue. C'est parfois la vie a du talent. Donc là, si vous voulez, j'ai moins l'impression de lire la phrase d'un écrivain que la baseline d'une compagnie d'assurance, à peu près. Tout de suite, on voit quand même un niveau, là. Et l'autre chose, plus délicate, mais intéressante, c'est qu'à un moment, tout le monde sait, et d'ailleurs... Philippe Besson, qui passe beaucoup dans les médias pour parler de son roman, ne manque pas de le dire. Il est lui-même homosexuel. Et donc, il y a quand même l'idée qu'il aurait, et il l'écrit, hérité.
Oui, il l'écrit. J'ai cité d'ailleurs.
De l'homosexualité de son grand-père, ce que celui-ci avait.
Il dit être héritier d'une expérience.
Voilà.
De l'expérience, notamment de l'homophobie et d'un désir refoulé.
C'est-à-dire qu'il dit qu'il a hérité, en fait, de l'homosexualité de son grand-père.
Il ne dit pas qu'il est hérité de l'homosexualité. Il est héritier de l'histoire.
Oui, il a hérité de l'histoire, mais pourquoi il n'a pas hérité d'une autre histoire que celle-là? Et par ailleurs aussi, parce que... Il fait beaucoup la comparaison avec Sur la route de Madison. Tout le monde se souvient donc de Sur la route, le plan...
final.
Le plan final de la voiture devant, avec le clignotant.
Voiture dans laquelle se trouvent Clint Eastwood et Meryl Streep est derrière.
Voilà. Absolument. Tout le monde se souvient, tous ceux qui ont vu le film se souviennent.
Et Meryl Streep va-t-elle rejoindre Clint Eastwood ?
C'est vraiment intéressant parce que on se dit, ah mais c'est moche, quelqu'un est passé à côté.
D'un grand amour.
D'un grand amour. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand amour ? Est-ce que ce grand amour n'avait pas été vécu, précisément ?
Où tu veux en venir ?
Mais c'est parce que cette histoire, en fait, de refoulement, quoi. C'est comme si le refoulement, c'était atroce. Mais non, le refoulement, c'est la vie. Voilà, c'est ça, en fait. C'est là où je veux en
le
venir.
Pas, c'est le pire, c'est une baseline pour une compagnie d'assurance. Le refoulement, c'est la vie, je sais pas.
Bah oui, et bien sûr que nous refoulons. Hein. Encore une fois, je ne dis pas que les gens sont stupides. Je veux dire, je refoule. C'est toujours la même histoire, quoi.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Mais ouais. Bien.
Raphaël. J'aurais adoré me surprendre moi-même et être éblouie par ce roman. Et je me suis vraiment terriblement ennuyée. En fait, Philippe Besson, alors il est très estimable, très respectable. C'est très important de dire que l'homosexualité a été bannie. Que
il voulait être consul à Los Angeles. Hein,
c'est vrai.
Même le Conseil d'État a dit non.
Mais il y a quelque chose dans son écriture, moi, qui me fatigue, au-delà du fait que la vie est du talent et que mon sang n'a fait qu'un tour, enfin vraiment rien ne nous est épargné, mais dans son écriture, il pense qu'écrire que quelqu'un est ému, ben, ça provoque l'émotion chez le lecteur, ou que dire que quelqu'un est troublé, ben, ça provoque le trouble. Ou que citer Ian Foster, ça donne la puissance littéraire de Foster, ou citer Sur la route de Madison, ça convoque pour tout le monde l'imaginaire érotique et fantasmatique du film. Or non, il suffit pas de dire ces choses-là à la littérature, ça demande un tout petit peu plus de silence, de subtilité, de phrases compliquées, ou de phrases simples justement, mais en tout cas, pas juste de dire qu'on est troublé pour faire naître le trouble.
Une pension en Italie de Philippe Besson est éditée chez Julliard. On continue avec Désertion de François Bégodeau. J'espère que tu as lu d'autres ouvrages de François Bégodeau, Nicolas. Notamment auteur d'Entre les murs, adapté au cinéma par Laurent Cantet, lauréat d'une Palme d'Or à Cannes. 3 ans après un roman intimiste intitulé L'amour, Désertion est fait d'aller-retour entre la banlieue du Havre et la Syrie, à travers le parcours de deux frères, Steve et Michael. C'est Michael, le cadet, qui décide de partir pour la Syrie, aux côtés des forces kurdes contre Daesh, avant que son frère aîné ne lui emboîte le pas. Alors on pourrait s'attendre à des pages sur la mécanique de l'enrôlement ou de l'engagement contre Daesh, mais non, François Bégodeau explore l'adolescence, puis l'entrée dans la vie adulte de ces garçons par saccades, entre passion pour Grégory Lemarchal, vainqueur de la Starac 2004, harcèlement scolaire ou petit boulot, sans privilégier, en tout cas de mon point de vue, sans privilégier, disais-je, une hypothèse qui expliquerait le départ de Michael et Steve pour Raqqa. Mais la parole est à vous, messieurs, dames, et on commence avec toi, Philippe.
Je trouve que François Bégodeau, il a une grande qualité que justement n'a pas Philippe Besson, c'est qu'il s'intéresse à la façon dont les gens gagnent leur vie. Parce que dans le livre précédent, on voyait bien que les gens étaient en vacances, puis voilà, ils font ce qu'ils veulent. Là, son problème, c'est de, sa question, c'est de raconter comment deux jeunes frères arrivent à gagner à la fois de la thune, enfin c'est tous les mots qu'il emploie, parce qu'il parle, il écrit dans cette langue, et on voit très bien que sans thune, sans taf, on n'a rien, il faut trouver une solution, et c'est, le livre se déploie comme ça, entre Starak et deal de drogue, et petit larcin, et petites histoires, etc. Évidemment, ce que veut, je crois, raconter Bégodeau, c'est la façon dont ces jeunes, qui finalement sont un peu... on ne pourrait pas leur reprocher grand-chose, sinon d'avoir pas grand-chose à foutre dans la vie, de ne pas savoir comment s'en sortir, vont être entraînés peu à peu à partir jusqu'à les défendre. Alors, il fait ça subtilement quand même, parce qu'ils ne vont pas du côté de Daesh, ils vont du côté des Kurdes. Donc, ils vont s'engager comme ça pour défendre les Kurdes contre Daesh. Je trouve que le livre, que je trouve intéressant, hein, je trouve qu'il mérite d'être lu, je trouve qu'il est beaucoup plus crédible quand il parle de la crise sociale française que quand il commence à s'intéresser au camp d'entraînement kurde, où là je trouve que c'est pas... Même d'ailleurs, en plus, je trouve que le glissement n'est pas très 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 compréhensible. Mais bon, je trouve que quand même, dans ce livre, il y a quelque chose... On aurait peut-être appelé ça autrefois un roman ouvriériste ou anarcho-ouvriériste, je sais pas, quelque chose comme ça, un peu la Jack London dans un certain sens, quoi. Sans la beauté de Jack London, évidemment, il n'y a pas la qualité de ça. Mais je trouve que le livre, il a quand même il a un intérêt, quoi. Il mérite d'être lu.
Raphaël.
Alors, c'est amusant que tu parles des conditions matérielles, puisque, par exemple, ils n'ont jamais de thunes, comme tu dis, et les deux frères, mais au moment où il faut acheter des billets d'avion, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, l'argent n'est pas un problème. Ça, il y a des espèces de petits raccords qui manquent quand même de ce point de vue-là. Mais ça correspond à un autre, à quelque chose qui m'a embêté dans le livre. À plusieurs reprises, la narration nous dit pourquoi est-ce qu'il tourne à droite ? Ben, parce que c'est l'arbitraire de l'auteur. Plusieurs fois, il fait ça, qui est sa manière de faire le malin, qui peut être amusant, on peut convoquer Bertolt Brecht, le quatrième mur, tout ça. Reste que ça traduit une forme de désinvolture chez François Bégaudeau, qui est assez caractéristique de ses romans de manière générale, pour en avoir lu un ou deux.
Oui, là, tu parles de la façon dont il intervient précisément
dont il intervient,
dans le roman.
Oui, ouais. dont il se... Voilà, il dit ça c'est du pur arbitraire de ma part, mais aussi dans sa manière de traiter ses personnages. On a l'impression que Steve l'intéresse quand même assez peu, et qu'au fond, il regrette un peu de ne pas s'être intéressé plus à Michael, donc le frère qui, lui, est bon quand il combat sur le terrain en Syrie, qui, lui, apprend le kurde. Et on se dit, tiens, il y a un petit regret de s'être intéressé à celui qui est fou de Grégory Le Marchal. Et moi, je ne peux pas m'empêcher complètement d'entendre une forme de mépris social dans la manière dont tu dis qu'il décrit de manière très précise la manière dont les gens vivent. Il y a du cliché, il y a du mépris social, une manière de décrire le dîner de Noël qui est quand même pas tout à fait dans un regard ouvriériste, dirais-tu. Moi, j'entends du mépris social. Il y a cette phrase que dit Steve à un moment sur le terrain en Syrie, qui est « Qu'est-ce que je fais là ? Mais j'en sais rien, tu sais. » Bon, ben, à un ou deux moments, je me suis demandé ce que je faisais là, parce que franchement, lui, il fonctionne bien. Il y a une électricité de la phrase de Bégaudeau. Mais si lui se fiche de ses personnages, pourquoi est-ce que moi, je m'y intéresserais ? C'est pas sûr. Oui.
Arnaud ?
Alors, je tiens François Bégaudeau pour un des plus grands romanciers actuel français. Son dernier livre, qui faisait 90 pages, qui vient de sortir en folio, était un tour de magie, comme l'a dit le journal Le L, puisque c'est le blurb de folio. Celui-ci est un tour d'imagination, c'est-à-dire comment deux gamins français, prolétaires, de la région du Havre, qui n'ont donc aucune sorte de lien, se retrouvent à devenir combattants du côté des Kurdes en Syrie contre Daesh. Est-ce que c'est parce que c'est l'histoire aussi de deux frères. Est-ce que c'est parce que le petit a vu mourir la star qu'il aimait à la Starac, qui est mort d'une maladie auto-immune très jeune. J'ai oublié son nom parce que je connais pas vraiment bien.
Grégory Le Marchal.
Voilà. Merci. Voilà. Moi je suis là. C'est plus ma culture. Je suis désolé. Enfin, je comprends quoi. Je vois à peu près ce qu'elle a. Est-ce que c'est parce que leur mère travaille en tant qu'infirmière
en soins palliatifs
et qu'elle voit des gens mourir tous les jours. Il ouvre plein de pistes sans qu'on sache pourquoi ils y vont. Toujours est-il qu'ils y vont. Et alors là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que sur toute la partie qui se passe en Syrie, j'ai trouvé ça extrêmement bien documenté. C'est-à-dire que là, Bégaudeau fait, comme on dit au cinéma, il fait son film de guerre, là c'est son livre de guerre. Et tout ça est quand même d'une beauté, moi je trouve, mais sans jamais chercher à expliquer un mauvais romancier. Mettons Philippe Besson aurait expliqué.
Attention, Lionel Shriver
voilà,
sort
pas
de
droit,
ce corps.
Voilà, je savais que j'avais pas le droit de dire un mauvais romancier. Un mauvais romancier aurait expliqué pourquoi il s'engage. Et là, Bégaudeau fait le contraire et il n'explique rien.
Oui.
L'hypothèse la plus certaine, à mon avis, c'est parce que leur père, le père des deux frères. Ils ont divorcé, les parents ont divorcé, et le père joue de la musique country. Et ça, à mon avis, ça peut expliquer pas mal de choses. Surtout en France.
Nicolas.
Bah alors, je dois avoir un côté Philippe Besson. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement toc, assez fabriqué, assez artificiel. Effectivement, tu parlais de cinéma. Ça ressemble aux sortes de, comment dire, un synopsis développé de ce qui aurait été une immense fresque naturaliste avec plein de personnages. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop ramassé. Alors, le début est intéressant parce que il y a un côté. On pense à l'émission belge Striptease, le documentaire. Voilà, on voit la vie quotidienne des gens. On apprend des choses étonnantes. Ils mettent des nuggets crus dans de la danette au caramel, enfin il y a des détails voilà, extrêmement précis, mais en fait il y a un côté, on a l'impression que je ne vois pas d'empathie pour ces personnages, c'est comme un scientifique très très intelligent qui fait une expérience, qui met des gens les uns à côté des autres et qui observe les choses, qui reproduit, qui explique tout, mais sans aucune empathie, c'est-à-dire pour moi c'est pas incarné du tout.
Désertion de François Bégodeau est publié chez Vertical. On termine avec Princesse, deuxième roman de Kinga Wierzykowska. Ça commence par le dîner d'une mère célibataire avec ses deux filles. Au moment où elle détache l'opercule d'un paquet de jambon, elle ne découvre pas des tranches, mais un doigt d'honneur. La patronne de l'usine agroalimentaire dépêche l'une de ses employées dans l'usine où la chose a été conçue. Et cette employée s'appelle Barbara Liss. Par plusieurs glissements du récit, Barbara suivra l'homme qu'elle aime en Pologne, pays dont sa mère est originaire. J'ajoute que Barbara part s'installer en Pologne, flanquée d'une lapine géante nommée Princesse, qu'elle s'est vue offrir pour son anniversaire. Le résumé que je viens de vous faire vous laisse entrevoir à quel point ce roman déjoue toutes les attentes, en maniant l'absurde, l'humour, le tout avec un bestiaire pour parler rien de moins que d'identité, d'exil et d'obscurantisme religieux. Et vers la fin du livre, l'autrice propose l'écoute d'un vrai faux podcast auquel on a accès en scannant un QR code avant de poursuivre la lecture. Tu l'as écouté, Arnaud ?
Non.
D'accord.
Parce que on peut écouter le podcast, mais on n'est pas obligé. On peut le lire. Moi, je suis resté un peu de la vieille école, c'est-à-dire que je continue à lire les. Mais l'idée du podcast m'intéresse. C'est pas, je suis pas.
Allé mais le l'écouter. Podcast n'est pas une lecture du roman. Hein. C'est vraiment une fausse émission de reportage avec
parce que,
les personnages.
Alors, c'est un roman qui dit est-ce que les frontières existent finalement ? Est-ce qu'il y a une frontière entre les hommes et les femmes ? Est-ce qu'il y a une frontière entre les animaux
et les,
et
hommes.
Les êtres humains hein ? Alors, évidemment, lapine géante, n'importe quel lacanien est mort de rire. Hein, vous imaginez, au début, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je dois dire qu'à la fin, et c'est pour ça que j'en avais un peu marre, au bout d'un moment, quoi, parce que c'est très long, là, pour le coup, un peu délirant, mais pas tant que ça non plus, pas assez délirant à mon goût. C'est quand même la petite fille de Witold Gombrowicz, qui est le grand écrivain polonais. D'ailleurs, elle commence immédiatement en dédiant son livre à l'immaturité, que le grand concept de cet écrivain Gombrowicz, mort à Paris en 1969. On est dans un espace littéraire européen, en fait. Et c'est ça, moi, je trouve le plus intéressant. Elle est d'origine polonaise, elle écrit en français. Il y a tout ce rapport qui est bien raconté, à mon avis, dans le livre avec la langue maternelle. Qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle, puisque sa mère est venue en France. Elle a appris le français, elle a appris à ne plus parler polonais. Sa fille décide de retourner avec forcément un plombier polonais. Vous vous souvenez du plombier polonais ? J'espère que vous
la
n'avez pas
Bocal
oublié
Stein. Oui, parce qu'il faut quand même mentionner que c'est un livre.
Raciste,
c'est quand même un livre qui est drôle aussi. Il y a de l'humour.
Oui, enfin, des fois, ça fait rire, des fois moins. Quoi. Je trouve que le régime, en fait, d'alacrité est un peu toujours à la même hauteur. Voilà. Et on se lasse.
Nicolas, alors, tu peux dire que tu n'as encore jamais
c'est
lu
mon premier
de
roman.
On n'en a fait que deux.
De roman cette autrice, puisque là, il s'agit de son deuxième roman.
Mais en fait, vraiment, j'aurais aimé ce livre, parce que le début... D'abord, un livre drôle, un livre foutraque, un livre drôlatique. J'ai commencé, il y avait un côté très excitant, très gourmand. Ça part dans tous les sens, c'est très original, la structure est étonnante. Mais au bout d'un moment, ça ressemblait un peu à une sorte de un monologue de stand-upeuse très drôle, mais qui nous emmène dans plein d'univers. Et à la fin, je suis désolé, pour moi, c'était une espèce de gloubi-boulga narratif. Et à la fin, j'ai trouvé ça écœurant. Il y avait trop de surcharge. Moi, je trouve qu'on se paume, il se passe trop de choses. Et alors, l'idée du podcast, c'est rigolo, mais c'est vraiment du gadget. Je l'ai écouté, ce qui permet de donner les clés de lecture pour la fin. Mais en fait, à la fin, j'étais super. Submergé par tout ça et le rire s'étrangle. À la fin, j'étais juste un petit peu écœuré.
Raphaël ?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le podcast parce que, alors, j'ai beaucoup aimé le début, le fait que ça s'essouffle au bout d'un moment, mais non sans avoir quand même pendant un très long moment admiré l'intelligence, la vivacité, le fait qu'on est dans la vraie fiction, qu'on ne sait pas où on va aller la phrase d'après, que moi j'en ai ras-le-bol des livres où je sais par où on va passer, parce que tous les livres qu'on a, les fables féministes, les dystopies dans des feux, les récits d'œil, tout ça on sait à peu près par où on va passer, qu'ils soient bien ou pas bien. Là je n'ai aucune idée, ni géographiquement ni narrativement de où je vais, donc rien que ça m'émeut. Toutes ces phrases presque sont intéressantes, sont vives, sont drôles, déjà ça suffit à me ravir. Mais donc il y a un moment où quand même, en effet, au bout de 350 pages, ça tourne un peu à vide. Mais le podcast, pour moi, ressaisit vraiment très très bien, avec beaucoup de fantaisie, d'humour, d'intelligence, ce qu'on avait un peu perdu de vue à force de s'agiter en Pologne.
Ça ajoute quand même énormément d'inattendus. D'arriver comme ça à une page avec le QR code en disant bah, si vous voulez, vous pouvez écrire, vous pouvez écouter, mais.
Vous êtes libre, profitez-en. Voilà, voilà. Et c'est ça le vrai sujet du livre, c'est vous êtes libre, profitez-en. Ouais.
Philippe.
Oui, moi, elle cite évidemment dans le livre la phrase célèbre d'Alfred Jarry. En gros, l'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. C'est une phrase de Jarry. Moi, j'ai trouvé que le livre nous emmenait nulle part, justement. Je trouve que c'est tout le problème de ce livre, c'est qu'il y a tellement de fils tirés, elle a tellement d'ailleurs de savoir-faire, elle est tellement brillante aussi, qu'au bout d'un moment, on est écrasé, quoi. Par exemple, le début se passe en France, les chapitres sont en français. 1, 2, 3, 4.
Après, ils sont en Pologne, la numérotation est en polonais.
Quand elle devient Elle sombre dans un faux intégrisme religieux catholique, c'est en latin. C'est plein d'histoires comme ça. Ça m'a rappelé une phrase de Baudrillard qui disait « Notre problème à nous, modernes, c'est qu'on a de la puissance, mais on n'a pas d'idée. » J'ai eu l'impression que c'était ça. Elle a une super puissance et en même temps, elle ne sait pas quoi en faire. Je pense sincèrement que son prochain livre sera formidable.
« Princesse » de Kinga Wierzykowska est publiée au Seuil. Et on termine avec vos coups de cœur. Nicolas.
Alors moi, j'ai choisi « Délicieuses frayeurs » qui sont des nouvelles de Maurice Pons, que vient de ressortir le Dilettante. Maurice Pons est un écrivain que nous aimons beaucoup, qui a publié dans les années 60 « Les Saisons », qui est un des plus jolis romans, je pense, de la fin du XXe siècle en France. Qui est un roman à la croisée de Tolkien et de Kafka. Et là, c'est des petits instantanés, c'est des petites histoires toutes simples. Mais comme les grands novelistes, il arrive à inventer un monde en 5 pages, comme pouvait faire Buzzati, comme pouvait faire même Maupassant. Et donc, c'est des petits bijoux de malaise, d'étrangeté et c'est un tout petit livre, des tout petites histoires et un très grand écrivain.
Délicieuses frayeurs, donc de Maurice Pons, réédité au Dilettante. Raphaël.
La vie ou presque de Chabi Molia, qui vient de paraître en poche aux éditions Point. C'est un livre sur les écrivains et qui évite déjà de gros écueils du livre sur les écrivains, c'est-à-dire le règlement de compte, le roman à clé ou l'autoportrait complaisant. Il n'y a rien de tout ça. C'est 3 personnages, 2 frères et une de leurs amies, qu'on va suivre pendant toute leur vie. Les 3 sont habités par la passion de la littérature. Les 2 frères auront des sorts parfaitement opposés et ça nourrira leur rivalité fraternelle, pendant que leur amie, elle, sera obsédée par la perfection et donc ne publiera pas. Et donc c'est un livre très beau, je trouve, sur la quête de perfection, mais aussi sur ce dont il faut se satisfaire quand on écrit, ce qu'il faut supporter. C'est un livre aussi très beau sur les relations entre les écrivains, sur la jalousie, mais aussi sur l'admiration, sur l'amitié, sur la part de contingence à l'œuvre dans la réception et le succès d'un livre. Et je trouve que c'est pas mal de parler de ça au masque à la plume.
La vie ou presque, donc, de Chabi Molia chez Point. Philippe.
Moi, j'ai retenu un livre qui s'appelle « La guerre des os », enfin « La guerre des os », mais O-S, de Benjamin Hoffman chez De Noël. Et c'est une histoire absolument extraordinaire, je trouve, qui raconte le conflit haineux qui a opposé deux paléontologues américains au XIXe siècle, qui étaient fascinés par le fait de collectionner les os, les mandibules, les squelettes des animaux préhistoriques qu'on commençait à découvrir dans le Grand Ouest américain. Et c'est une histoire absolument dingue, parce que c'est une histoire vraie. Hein. Il y a tout ce qu'on veut, c'est-à-dire il y a la conquête de l'Ouest, les Indiens, les cow-boys, les colons, les pionniers, la montée du capitalisme, l'arrivée du chemin de fer, les roueries universitaires, les trahisons, les mensonges, tout ça dans une espèce de folie de tibia et de mâchoire. On a appelé ça, la ruée vers l'os, c'est absolument formidable et c'est comme la ruée vers l'or, mais vers des squelettes. Et comme j'ose aller le dire, c'est un livre qui se dévore.
La guerre des os, donc, de Benjamin Hoffman chez De Noël. Arnaud.
Le ciel a disparu d'Alain Blotière, c'est chez Gallimard. Alain Blotière n'est pas un écrivain assez célèbre, assez connu malheureusement. Il a eu le prix Décembre il y a quelques années. Ici, l'histoire est très simple. En fait, c'est un écrivain de 70 ans qui ressemble beaucoup à Alain Blotière, qui vit comme lui entre la France et l'Égypte, qui décide d'assassiner Elon Musk. Et pourquoi il décide d'assassiner Elon Musk? Bonne question. Alors, pas dans le futur, hein, en avril 2026, c'est-à-dire demain. Hein. Pourquoi? Parce que celui-ci, avec ses satellites, vous savez qu'Elon Musk dispose de Starlink, hein, qui est une entreprise de satellites, et pollue le ciel, d'où le titre « Le ciel a disparu », et ne l'empêche de contempler les constellations qui sont quand même notre repère, hein, dans l'univers. Et donc, il décide de veut l'assassiner et comment s'y prendre. Alors là, ils trouvent un jeune hacker, ils ont une idée qui est de pirater la Tesla de Elon Musk. Hein, de prendre le contrôle de sa Tesla et de provoquer un carambolage. Voilà. Donc,
je vous laisse découvrir... pas pouvoir vous raconter tout le roman.
Voilà, non, je vous laisse découvrir la suite. Mais ce que je peux dire, c'est que dans cette rentrée d'hiver, je trouve que, pour parler comme un cuistre, c'est vraiment le livre qui représente le mieux le Zeitgeist. Ce qu'on appelle le Zeitgeist en allemand, c'est-à-dire l'esprit du temps. Je trouve que ce livre, Le ciel a disparu, de Blottière, est vraiment le livre de l'esprit du temps.
Et ça a paru chez Gallimard. Arnaud Vivian, Raphaël Léris, Nicolas Destiendorf et Philippe Trétiac, merci pour vos lectures. Avant de terminer l'émission, j'aimerais vous parler du Livre Inter, présidé cette année par Laurent Mauvignier, lauréat du Goncourt en novembre dernier. Et pour faire partie du jury du Livre Inter, vous avez jusqu'au 16 mars inclus pour adresser une lettre par mail sur le site de franceinter.fr ou par courrier à l'adresse France Inter, Libre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Pour ce qui concerne les prochains enregistrements du masque, je vous donne rendez-vous le 5 mars, toujours au Théâtre de l'Alliance Française. Nous débattrons de l'actualité du cinéma et de la scène. Stéphane Le Guenec réalise l'émission et c'était avec Alex Olarewaju-Otinois, Julie Garraud et Stéphane Touvenin. Aujourd'hui, Le Masque est une équipe où compte Ilinka Negulesco qui coprogramme l'émission avec moi et Lilou Gutmann qui nous aide pour la préparation. Ma bande et moi vous retrouvons dimanche prochain pour de nouveaux enthousiasmes ou désaccords. Une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.